Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je regardais ce matin la Sicile qui se retrouve avec un déficit de précipitations. Le manque d'eau est tel que ça cause des problèmes majeurs à des producteurs de fruits, à des producteurs de vin. Il y a des orangeraies qui sont vraiment affectés, c'est des 30-40% de pertes. Les fruits sont séchés, plus petits. Même chose pour l'élevage de bovins. Et c'est pas la seule région de l'Italie qui est touchée, mais ce matin, il y a ces dernières infos qui rentrent concernant la Sicile. Et paraît-il qu'avec l'hiver qu'on a eu et le printemps qui s'amorce demain, il y en a qui lancent des projections. Je voyais ça hier à Radio-Canada, qu'il y aura peut-être moins d'insectes durant les prochains mois, population moins importante, donc moins dérangeante pour les humains qui aiment les endroits de villégiature et qui aiment être à l'extérieur. On commence ce matin par cette victoire qui évidemment était c'était écrit dans le ciel. Vladimir Poutine qui reçoit un nouveau mandat, 71 ans, il est président de la Russie depuis 1999 et il va demeurer à la tête de son pays jusqu'en 2030. Là, évidemment, on fait attention aux chiffres parce que on ne sait pas si c'est ça la réalité, mais quand même, on parle de 87,3% des voix avec un taux de participation de pas loin de 75%. Il a mieux fait que lors de l'élection présidentielle il y a quelques années. Donc, ça veut dire quoi? Ben, un, on peut pas dire grand-chose parce que depuis la guerre en Ukraine, la répression s'est abattue sur la Russie. Les dissidents ont été neutralisés, emprisonnés. Navalny est décédé. D'ailleurs, Poutine a dit que c'était un incident malheureux. La mort en prison, en Sibérie, de son principal adversaire, de celui qui incarnait le mouvement de révolte en Russie. Et les candidats qui étaient contre Poutine ont été soigneusement écartés. Et ceux qui étaient là étaient des candidats de pacotille, là, qui vont dans le même sens, finalement, que Poutine. Alors, dans son discours, il a parlé de l'Ukraine, de la nécessité de terminer cette opération militaire. Il n'emploie pas le mot « guerre ». Et il a dit aussi qu'il n'est pas impossible, dans le monde d'aujourd'hui, que cette guerre prenne de l'ampleur et qu'on se retrouve dans un conflit entre, par exemple, l'Europe, les forces de l'OTAN et la Russie. Il n'a pas dit « c'est sûr », il a dit « c'est pas impossible ». Et donc, il a vraiment, pour les prochaines années, le pouvoir. On a vu des manifestations de dissidents, des gens qui sont allés protester, mais on comprend que c'est en marge, que l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer en Russie. D'autre part, c'est important ce qui se passe aux États-Unis, avec Donald Trump, qui était en Ohio, qui a tenu des propos d'une rare violence lors de ce ralliement près d'un aéroport, où il a dit, et je cite, que s'il n'est pas élu en novembre prochain, ce sera un bain de sang. Et c'était un discours un peu chaotique. Il s'en est pris aux immigrants en disant que ce ne sont pas des vrais humains. Il a dit également que s'il prenait le pouvoir, il avait l'intention d'imposer des tarifs sur les voitures fabriquées à l'étranger. Et c'est là qu'il, dans une espèce de lancée, je ne sais pas s'il a improvisé, il a dit... Il y aura un bain de sang si je ne suis pas élu et ce sera la dernière élection démocratique. Ouvrant la porte à une contestation, à un soulèvement populaire, il a rendu hommage à ceux et celles qui ont été condamnés lors de l'attaque et pour l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 en disant que ce sont des patriotes incroyables, des gens qui sont maintenant les otages du système et que s'il prend le pouvoir, il va récompenser ses militants. Et puis, il a répété que son élection lui avait été volée, encore une fois basée sur des mensonges, mais c'est ce discours qui tient et qui, malgré tout ça, continue de le placer en très bonne position face à Joe Biden pour reprendre le contrôle de la Maison-Blanche. Le troisième volet international porte sur Gaza, où il y a des opérations militaires lancées dans la nuit par Israël visant l'hôpital de Al-Shifa. Pourquoi? Parce que Israël prétend que le Hamas utilise l'hôpital comme un endroit pour camoufler ses miliciens. Le Hamas, évidemment, dit que c'est faux. Et vous avez des communications venant d'Israël disant qu'ils ont aperçu des terroristes armés, qu'il y a eu échange de coups de feu, que certains terroristes auraient été blessés, voire même tués. Tout ça se passe sur un terrain d'un hôpital où déjà c'est extrêmement compliqué de donner des soins. On l'a répété à maintes reprises, on va en reparler tantôt avec Jean-François Lépine. Mais cette opération, donc, a été déclenchée avec une mise en garde aux soldats israéliens de faire attention aux civils, au personnel médical. Et c'est pas la première fois que les hôpitaux sont visés. Il y a des problèmes, par exemple, pour ce qui est de l'électricité, des problèmes d'approvisionnement de matériel médical. Il y a des femmes enceintes qui accouchent hors hôpital. C'est extrêmement grave. Et l'aide humanitaire, encore une fois, ne se rend pas aux Gazaouis qui ont faim, qui ont soif. Vous avez même le chancelier allemand qui a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe actuellement et qu'on ne peut pas rester les bras croisés devant la faim, devant la soif d'autant de personnes sur le territoire de Gaza. Et puis qu'on parle d'hôpitaux en Haïti, toujours dans l'attente d'un gouvernement provisoire, et les gangs armés qui contrôlent le trois quarts de la capitale et s'attaquent aux hôpitaux. C'est assez incroyable. Donc, des médecins, du personnel médical enlevés près des hôpitaux, dans les rues. Encore là, problème d'approvisionnement en eau, en nourriture. Et les gens ont extrêmement peur. Et la question, c'est que même s'il y a un gouvernement de transition qui est formé, jusqu'à quel point les gangs vont se retirer, jusqu'à quel point ces milices vont accepter. Il semble que non, mais donc c'est complètement chaotique, encore une fois, la situation en Haïti. Bon, on va parler de ce dossier DPJ qui a été mis en lumière dans la presse en fin de semaine. Des intervenants, la plupart très jeunes, avec quelques années d'expérience, qui sont victimes de harcèlement, de violences verbales, d'attaques. Dans certains cas, c'est physique aussi. Et ça donne quoi? Ben, ça donne des départs prématurés. Ça fait qu'il y a des jeunes qui, avec plein de bonne volonté, s'écœurent, sont plus capables de faire face à cette pression-là et décident de quitter et d'aller carrément faire autre chose. Quand vous dites « je vais retrouver tes enfants », quand vous allez visiter quelqu'un qui est armé et qui vous compare à une corneille qu'il pourrait abattre, vous comprenez comment ça se passe. Et là, des conflits entre la DPJ et les parents, ça a toujours existé. La DPJ débarque dans votre vie, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les parents. C'est une bonne nouvelle, sans doute, pour les enfants, mais pas pour les parents. Et oui, il y a des abus de pouvoir, et il y en aura toujours. Il y a des intervenants qui font sentir aux parents qu'ils sont des moins que rien et qu'ils ont le pouvoir de leur enlever leur enfant. Donc, ça crée des tensions. Et il y en a beaucoup d'autres, puis j'en ai croisé dans les derniers mois, qui sont dévoués, qui veulent aider et qui pensent que de retirer l'enfant, c'est ce qu'il faut faire, ou les encadrer. C'est pas toujours un retrait, c'est de dire voici un plan pour s'assurer de la sécurité de l'enfant. Êtes-vous capable d'embarquer? Puis il y a des parents qui ne le prennent pas. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a des groupes qui ont des pages qui se craignent entre eux, et qui enregistre et qui incite les gens à enregistrer les conversations. Ça peut servir de preuve éventuellement. Ce qui fait que tout le monde est sur la défensive. Tu mesures chaque mot. Puis là, on parle de gens qui devraient avoir en commun l'intérêt des enfants, intervenants, intervenantes et la DPJ. Ce matin, dans cet autre volet, dans la presse, cette enquête donc de Katia Gagnon et Caroline Touzin, ce matin, Katia nous apprend, entre autres, que les réseaux sociaux ça carbure à plein régime de menaces. Et là, la DPJ qui enlève des enfants, là, on est dans le complotisme assez bien relevé, là. Alors, C'est vrai qu'on a de la misère à recruter. C'est vrai qu'on a de la misère à garder les intervenants. Puis là, vous entrez dans des problèmes graves. Puis, savez-vous quoi? Moi, ma crainte depuis le début, quand j'entends le ministre Carman dire il faut réduire la liste d'attente, c'est qu'on tourne les coins ronds, qu'on souhaite avoir strictement une vision statistique. Moi, ce que j'entends, puisque des intervenants me disent, ils n'ont pas le temps de travailler correctement. Il manque de monde, les dossiers s'empilent, puis on veut que la liste d'attente baisse. T'sais? C'est comme faire du dépistage. C'est bien beau, mais si tu n'as pas les ressources pour aider, ça donne quoi? Et est-ce que tu réduis de façon un peu artificielle la liste d'attente, sans parler de la structure? La directrice nationale, qu'on n'entend à peu près jamais parler, sauf quand il y a une crise. Puis là, une espèce de poste d'ombudsman qui pourrait être créé pour défendre des enfants parce que la Commission des droits de la personne ne le fait pas de façon très adéquate. Tu sais, c'est quand même grave, cette détérioration, si on veut, du service, alors que ce sont des enfants qui en ont besoin, qui sont vulnérables. Je vous parle maintenant de l'affaire de Lille. En fin de semaine, il y a Yves Boisvert qui a recueilli les propos du ministre de la Justice, David Lametti. La grande question, c'est comment ça se fait qu'il a ordonné un autre procès alors que le rapport d'experts lui disait qu'il n'y avait eu aucune erreur judiciaire. On ne comprend pas pourquoi. Ses explications demeurent nébuleuses. Il dit qu'il a respecté la procédure, qu'il a consulté d'autres personnes, des avocats. Il n'a pas pris que le rapport, puis c'est arrivé comme ça la décision, puis voici, je pense que ça prend un autre procès. Le DPCP, dans une entrevue à Radio-Canada, dit « on comprend pas ». Et on pense que le ministre, l'ex-ministre de la Justice, David Lametti, doit s'expliquer pourquoi il a ordonné ce nouveau procès en 2021. Maître Patrick Michel dit que finalement, c'est à n'y rien comprendre et qu'on se demande s'il n'a pas été influencé. Par qui? Pourquoi? Est-ce que c'est son statut de juge? En tout cas, ça donne une bizarre impression, cette affaire-là. Mais la médecine n'a pas de regret. Il dit, c'est ça qu'il fallait faire. Puis j'ai fait appel à des gens qui sont habitués de défendre des personnes qui sont, par exemple, condamnées injustement. Mais la preuve, on a vu des pathologistes, entre autres, sortir à l'époque en disant, non, non, notre preuve est béton, c'est un meurtre. Le juge a tué sa femme. C'est ça qui est arrivé. Et la médecine donc a demandé un nouveau procès. D'ailleurs, en parlant des services policiers, les enquêtes, vendredi, tout discrètement, l'UPAC a émis un communiqué laconique, quelques lignes seulement, en disant que le 25 octobre 2017, dans le cadre de l'enquête interne nommée Projet A, l'UPAC a procédé à une perquisition au domicile de messieurs Bonhomme et Dépati. Ce sont deux anciens de la Sûreté du Québec, et de leur conjointe, donc, qui était visée, mesdames Jodoin et Goujon. Je peux te dire que ça met pas beaucoup de trucs en perspective, ce communiqué-là. Depuis les événements, des informations maintenant publiques soutiennent que l'enquête n'a pas été menée en tout point selon les règles de l'art. Cette enquête a eu des impacts regrettables sur l'intégrité professionnelle, la vie personnelle de messieurs Bonhomme et Dépati et de leur conjointe, mesdames Jodoin et Goujon. Pourvu d'excuses dans ça, comme tel. Puis tu sais, on envoie ça le vendredi, là. Je rappelle que Guy Ouellet a eu droit à des excuses un peu plus substantielles. C'est le même type d'opération. Aurait peut-être fallu le dire dans le communiqué. L'UPAC a l'air, encore une fois, de cacher des affaires. Ou en tout cas, de pas vouloir trop en dire pour ne pas déranger. Évidemment, on a demandé une entrevue. Ils venaient nous expliquer ça. Ils nous ont dit non. Puis le BEI, pas de nouvelles. Toutes sortes de rumeurs qui circulent sur l'enquête concernant les fuites à l'UPAC. Alors, ça fait des années qu'ils enquêtent. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que le ministre Bonnardel va recevoir un rapport éventuellement pour savoir ce qui arrive avec ça? Ça reste à confirmer. Dans les autres nouvelles, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, a maintenant son tableau de bord. Et là, il est équipé pour savoir ce qui se passe en temps réel dans les écoles du Québec. Est-ce que ça performe? Ça performe pas? D'un centre de service scolaire à l'autre. Il dit que c'est pas juste d'avoir des résultats, mais c'est d'être capable de bien distribuer les ressources. Et ça fait partie des pouvoirs additionnels. Donc, un peu comme le ministre de la Santé, Christian Dubé, c'est un outil qu'il veut utiliser. Il sera avec nous ce matin pour parler de ça et de d'autres enjeux en éducation. Il y a eu également ce dossier en fin de semaine dans le Journal de Montréal concernant les tarifs d'électricité. Je vais vous dire, c'est pas sorcier, là. Les Québécois, même si on trouve que ça nous coûte cher, l'électricité est à bas prix quand on compare avec d'autres pays. C'est pas pour rien là, que vous voyez tous ces joueurs de la filière batterie débarquer au Québec, là, puis les autres qui font des demandes. Qu'est-ce que le ministre Fitzgibbon a dit? Il a dit, pas tout de suite, parce que le PM a dit l'augmentation sera plafonnée à 3%, mais dites-vous que après l'élection, peu importe qui sera au gouvernement, ils vont chercher une façon d'avoir une tarification dynamique pendant l'heure de pointe pour les gens qui consomment, des gens qui ont des grosses maisons, qui ont, je sais pas moi, une consommation qui dépasse la normale, ben sans doute que cette quantité additionnelle, ben ça va coûter plus cher. Donc, dans les prochaines années, nous allons payer collectivement plus pour l'électricité. Et l'autre question qui sous-tend tout ça, c'est est-ce qu'on est capable de réduire parce que nous consommons beaucoup? Et est-ce qu'on est vraiment capable de réduire comme ça notre consommation d'électricité? Ça va être un débat intéressant pour les prochaines années. Radio-Canada qui nous parle aussi de la paperasse en santé, c'est-à-dire que les médecins qui sont tannés de remplir des formulaires, puis je comprends, là, qu'ils sont tannés de remplir des documents puis de la paperasse que ça leur prend 30% dans une semaine pour des... En fait, pour ce qui est des... régime public, entre autres la CNESST, il y a déjà une réforme qui s'amorce, qui va faire en sorte que vous ne serez pas obligé de toujours reconduire, en passant par un rendez-vous chez le médecin, quelque chose d'évident, par exemple, quelqu'un qui a un handicap. On essaie d'alléger pour ce qui est des organismes publics, et là, les joueurs des compagnies d'assurance, c'est interminable, les questionnaires, et les médecins qui doivent, comme ça, passer du temps, plutôt que de soigner des patients, faire de la bureaucratie, donc Radio-Canada, qui nous donne des exemples ce matin. Puis en terminant, je veux pas vous stresser, mais tu sais, on sait que les gens aiment voyager, vont voyager de plus en plus. Encore eu un événement en fin de semaine, un vol de United Airlines qui a décollé vendredi de San Francisco en route vers l'Oregon, cet aéroport. Et quand ils sont arrivés, ben en fait, ils s'en sont rendus compte pendant le vol, mais quand ils sont arrivés à l'aéroport, il y avait un panneau qui manquait dans l'avion. Ça s'ajoute à quoi? Ça s'ajoute à ce panneau qui s'est détaché en plein vol, qui occupait l'espace d'une porte, mais qui était en fait un hublot, puis on a découvert qu'il y avait des écrous mal installés. Ça s'ajoute à un autre vol la semaine dernière, il y a une chute d'altitude, puis il y a des gens qui ont été légèrement blessés dans l'avion. Tu sais, la turbulence, ça existe, mais quand même, ça fait une série d'événements. Et en plus, on pointe Boeing sur la façon de faire et ses protocoles de vérification. Autrement dit, ils tournent les coins peut-être un peu ronds depuis quelques années pour faire face, disons, à des coûts plus élevés pour fabriquer des appareils, autant dans la conception que dans l'inspection. Alors, bon vol si vous quittez ce matin. Je voulais pas vous traumatiser, mais tu sais, ça fait une couple d'incidents comme ça qui impliquent des avions de Boeing.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Le ministre de l'Éducation a maintenant son tableau de bord à partir duquel il peut constater en temps réel les bons coups et les ratés du système d'éducation. Il est avec nous ce matin, le ministre Bernard Drainville. Bernard, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, qu'est-ce que tu vois sur ton tableau à ce moment-ci? Qu'est-ce que le ministre a comme information qu'il n'avait pas?
Ben, par exemple, tu te rappelles la rentrée scolaire de l'été passé?
Oui.
J'avais 8500 postes à combler. Et puis là, je devais demander manuellement à chacun des centres de services scolaires de me dire combien il y avait de postes à combler dans chacun des centres de services scolaires. Ben là, je vais pouvoir à chaque semaine savoir quels sont les postes à combler dans chacun des centres de services scolaires. Alors, je vais être capable de beaucoup mieux gérer la rentrée scolaire. Et ça, combiné au fait qu'on a obtenu dans la nouvelle convention collective l'affectation des profs pour le 8 août, alors que actuellement ça pouvait se faire à la fin août, même pendant le mois de septembre, il y avait encore des postes qui étaient affectés fin août, début septembre. Ben là, moi, je pense que avec cette affectation au 8 août, plus une information en temps réel à chaque semaine sur le nombre de postes à combler, je pense que ça va nous aider à avoir des rentrées scolaires beaucoup plus harmonieuses, beaucoup moins chaotiques.
Est-ce que tu sais ce matin combien il manque de profs dans le réseau?
Oui.
Combien?
1000 quelques. Faudrait que je retourne sur mon tableau de bord, là. Mais c'est 1000 quelques. C'est le chiffre habituel pendant l'année scolaire parce qu'il y a toujours un roulement pendant l'année scolaire. Mais c'est moins de 1100, là. C'est entre 1000 et 1100, là.
OK. Ça, donc, c'est des profs suppléants qui font le travail.
1094, Paul. Alors ça, effectivement, ce sont, par exemple, des profs, des enseignants qui ont quitté parce qu'ils sont tombés malades. Il y a évidemment des enseignantes qui partent en congé de maternité et tout ça. Alors, il y a toujours un roulement pendant l'année scolaire. Et effectivement, ces 1094 postes-là, il y a des postes à temps plein là-dedans, mais il y a des postes à temps partiel aussi, comme des suppléants.
Est-ce que je comprends que tu vas être en mesure de voir dans quelles écoles les résultats, par exemple, sont peut-être en haut de la moyenne, les écoles en difficulté? Ou si c'est par centre de service scolaire, tu vas être capable de détecter où il y a des bons coups et des mauvais coups dans le système?
Ce qui va être rendu public, ça va être par centre de service scolaire, et ça l'est déjà. Vous pouvez aller sur le tableau de bord actuellement là, et vous allez voir les résultats aux épreuves ministérielles, là, tu sais, les fameux examens du ministère, Paul, donc anglais et français de secondaire 5, mathématiques, sciences et histoire de secondaire 4. Tu peux avoir, dès maintenant, les résultats par centre de service scolaire. Et nous, à l'interne, on va avoir également des résultats par école. Et donc, on va pouvoir intervenir auprès des centres de service scolaire pour leur dire où est-ce que tu en es avec telle et telle école, les résultats sont en dessous de la moyenne, qu'est-ce que tu prévois faire, est-ce que tu vas les aider avec du tutorat, est-ce que tu peux peut-être ajouter une aide à la classe dans une classe ou des aides à la classe dans telle et telle classe, est-ce que tu peux leur fournir un conseiller pédagogique peut-être pour aider les profs. Donc on va être capable, Paul, en fait, d'avoir les résultats scolaires pendant l'année scolaire plutôt qu'à la fin de l'année scolaire.
Il y a des profs que j'entends dire « wow, 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 le ministère va se mêler de la gestion de ma classe, de mon école, on est dans un système décentralisé ». Il y en a qui voient ça comme de l'ingérence.
Ouais, c'est pas nous qui allons intervenir dans les classes. Ce qu'on va faire, nous, on va avoir des données qui vont nous permettre d'intervenir auprès des centres de services scolaires. Et eux vont intervenir dans les classes. Donc, les directions des centres de services scolaires vont être capables de s'asseoir, par exemple, avec la direction d'une école, puis dire, écoute, là, dans telle année, mettons en deuxième année, là, après le bulletin de la première étape, on regarde ton bulletin de première étape, mettons tes classes de deuxième année, les résultats sont en dessous de la moyenne. Est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour qu'après les fêtes, on te donne de l'aide pour que les résultats soient davantage... soit amélioré, soit meilleur.
Est-ce que je comprends qu'on va avoir ultimement un palmarès des écoles? Je disais ça dans le Journal de Montréal, que l'objectif, c'est que moi, comme parent, là, je vais être capable de voir où sont les écoles qui performent, quels sont les résultats, les classes où c'est moins bon, les écoles où c'est moins bon. Est-ce qu'ultimement, c'est ça? Là, il y a un palmarès privé qui existe. Est-ce qu'il y aura un palmarès public?
Éventuellement, j'aimerais ça. J'aimerais qu'on en arrive là. Maintenant, à court terme... on n'en est pas là. C'est déjà, je veux dire, Paul, déjà de donner les résultats par centre de service scolaire, réseau public, réseau privé, c'est une grosse avancée, là. Les gens vont peut-être dire, mon Dieu, ça aurait dû être fait depuis longtemps, peut-être, là, mais là, si vous allez sur le tableau de bord, vous allez être capable de comparer les centres de service scolaire. Puis moi, ce que j'espère, Paul, c'est que les centres de service scolaire non seulement vont se comparer, mais vont apprendre les uns des autres. Moi, je suis tout à fait convaincu que si on veut devenir meilleur, il faut connaître nos résultats, mais il faut les mesurer, puis il faut les comparer. Moi, je ne suis pas gêné de ça, de le dire. Puis c'est pas une course à la médaille, là. L'idée, là, c'est pas de faire une Olympique des centres de services scolaires, puis éventuellement une Olympique des écoles. L'idée, c'est de se dire, comment se fait-il que dans tel centre de services scolaires, où il y a beaucoup d'écoles 8, 9, 10, donc des écoles là à fort taux de défavorisation. Comment ça se fait que dans tel centre de service scolaire, ils réussissent à avoir des bons résultats, mettons en français ou en mathématiques, je donne ces exemples-là, et dans des centres de service scolaire avec des écoles au profil identique ou similaire, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'elle fait de bien, cette direction de centre de service scolaire? Quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place dans leur classe pour leur permettre d'obtenir des meilleurs résultats? Et donc, être capable d'apprendre les uns des autres. Et moi, je suis convaincu que le fait de rendre public ces résultats-là, ça va créer une saine émulation. Les centres de service scolaire vont vouloir apprendre les uns des autres. Puis éventuellement, Paul, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il faudrait que les résultats par école soient rendus publics, que ce soit pas le Journal de Montréal, le Journal de Québec qui rendent ça public, que ce soit le ministère de l'Éducation.
OK. De savoir ce qui se passe, c'est une chose. D'avoir les pouvoirs de changer les choses, c'en est une autre. Même si tu fais des constats, même si le ministère appelle dans les centres de services scolaires, est-ce que tu as entre les mains des pouvoirs pour décréter des changements?
Oui, j'ai le pouvoir d'émettre des directives. Tu sais, je l'ai fait avec les cellulaires. J'ai interdit les cellulaires dans les classes parce que j'ai un pouvoir de directive. J'ai interdit que les écoles deviennent des lieux de prière par directive. Je vais procéder par directive pour ce qui est des toilettes pour garçons et filles. Donc, j'ai certains pouvoirs, mais c'est évident, Paul, que dans certains cas, faut que les centres de services scolaires exercent leur part de responsabilité. Tu sais, on a beaucoup parlé des éclipses, là. Bon, là, j'ai eu les chiffres ce matin, là. C'est à peu près la moitié des centres de services scolaires qui ont décidé de rester ouverts, puis l'autre moitié qui ont décidé de tenir une journée pédagogique. Bon, alors moi, j'ai émis une recommandation. J'ai dit, je souhaite que les écoles restent ouvertes. Maintenant, j'ai laissé la décision finale. En fait, j'ai pas laissé.
Tu ne pouvais pas l'imposer, c'est ça.
Et voilà, exactement, parce que les calendriers scolaires relèvent des centres de services scolaires. Les journées pédagogiques, ça relève d'une entente négociée entre le syndicat local puis la direction. Alors, j'ai des pouvoirs. Maintenant, je peux pas tout faire. Et puis, c'est une bonne affaire, honnêtement, que je puisse pas tout faire. Parce qu'il
prenons l'éclipse, hein? Là. Il y a des parents qui sont un petit peu contrariés parce qu'ils se disent c'est un événement unique. C'est le rôle de l'école d'accompagner les enfants. Puis parce que mon enfant est dans le mauvais centre de service scolaire, ben pour lui, c'est une journée pédagogique. Puis pour un autre, là, il va pouvoir vivre ça avec son prof.
Je comprends cette frustration-là. En même temps, je vais défendre quand même le fait que ce soit les centres de service scolaire qui prennent cette décision-là, parce que d'abord, ça relève d'eux, comme on vient de se le dire. Et puis, moi, là, ultimement, Paul... Tu sais, si jamais on avait décidé, là, par un moyen qui n'existe pas, là, mais mettons, on discute, là. Mettons que j'aurais eu le pouvoir d'imposer que toutes les écoles restent ouvertes. Et qu'on se retrouve dans une situation où des élèves sont en transport scolaire au moment où l'éclipse survient. Imagine-toi la situation. T'as des élèves, des enfants de 6 ans, 7 ans qui sont dans un autobus scolaire avec des lunettes. Puis là, c'est quoi? C'est le chauffeur d'autobus qui doit s'assurer qu'il porte les lunettes pendant que l'éclipse survient. Tu comprends qu'à un moment donné...
Mais pourquoi il y a des centres de services scolaires qui sont capables de le faire puis d'autres qui sont pas capables de le faire?
Ben, parce qu'ils sont organisés pour le faire.
Pourquoi l'autre, c'est pas organisé?
Bonne question.
Non, mais tu comprends? C'est un peu ça. L'autre question, parce que le temps file, là. Il y a Marois Risky qui soulève, c'est ta critique officielle, là.
Oui.
Qui dit qu'elle est inquiète de la sous-scolarisation des garçons. C'est pas d'hier, là, qu'on parle des problèmes, puis que même un garçon qui a pas de retard, qui a pas de problème particulier, il a une chance sur deux de finir son secondaire 5 à temps. Est-ce que sur ton tableau de bord, tu vas voir si les gars sous-performent et ça se passe de quelle façon dans les milieux où il y a quand même des meilleurs résultats?
On le voit déjà. Si les gens vont sur le tableau de bord, là, si vous allez sur québec.ca, vous cliquez sur tableau de bord, puis vous allez voir les résultats pour les garçons et pour les filles. Puis c'est vrai, Paul, actuellement, là, le taux de diplomation après 7 ans, chez les filles, il est de 88 %. Chez les garçons, il est de 80 %. Donc après 7 ans, tu as 8 garçons sur 10 qui sortent avec un diplôme ou une qualification. Donc on s'entend qu'on a un problème. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer à investir dans le tutorat. C'est pour ça que je pense que les aides à la classe vont aider, pas juste les garçons, les filles aussi, mais je pense qu'on n'aura pas le choix que de porter une attention particulière envers les garçons.
Mais là, tu parles sur une période de 7 ans. Sur 5 ans, c'est combien?
Sur 5 ans, c'est moins que ça. Écoute, je l'ai pas sous les yeux, là, mais ça doit être autour de 70-72% sur 5 ans. Fait que t'as des élèves qui prennent plus que 5 ans pour obtenir leur secondaire 5. T'en as d'autres qui vont faire un détour par l'éducation aux adultes, puis qui vont finir par obtenir une qualification ou une diplomation. Mais tu sais, quand on aide, avec la nouvelle convention collective, là, par exemple, on va avoir des aides à la classe dans à peu près une classe du primaire sur deux au Québec. Là, on a autour de 30 000 classes primaires au public, dans les écoles publiques. On va avoir une deuxième adulte dans à peu près la moitié de ces classes-là. Je pense que ça va aider, ça, les jeunes. Ça va aider en particulier les garçons, je pense bien, parce qu'il va falloir mettre davantage l'attention, l'emphase là-dessus, okay. Leur accorder davantage d'attention. Même chose avec le tutorat, Paul. Je pense qu'on peut... tu sais, il y a déjà 130 000 élèves là, qui bénéficient de services de tutorat. Faut continuer à utiliser le tutorat. Et puis, moi, je pense aussi qu'en valorisant la formation professionnelle, les métiers, c'est bon pour les garçons puis c'est bon pour les filles. Mais je pense, Paul, que si on mettait davantage l'accent sur l'importance des métiers, le fait que c'est une très bonne chose d'avoir un métier, qu'on va bien gagner notre vie, qu'on va aller au bout de notre potentiel avec un métier, puis qu'on va être drôlement utile socialement, je pense que si on était capable de changer le narratif autour des métiers, je pense que ça nous aiderait à garder plus de garçons à l'école.
L'autre chose, on a vu depuis, je dirais, le début de l'année scolaire, là, pas mal d'événements de violence, de harcèlement. Là, c'est rendu qu'une mère se présente en brosse avec un bâton de baseball. Ça se passe parfois sur le terrain de l'école, parfois dans un parc pas loin. Et on a toujours ce sentiment que là où les victimes payent le prix, ce sont eux qui changent d'école et pas les agresseurs. As-tu un plan pour faire face à ça?
J'ai pas un plan à t'annoncer, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir une journée violence. Je l'appelle comme ça, là, mais dans le fond, c'est une journée qui va réunir tous les acteurs du milieu de l'éducation pour discuter de la situation de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Et je peux te dire d'emblée que la question de la sanction, des sanctions, va être abordée pendant cette journée-là. Moi, je suis... comment je dirais bien ça? Quand je regarde des épisodes comme ceux que tu as mentionnés et que j'entends dire que l'agresseur ou l'intimidateur a quitté l'école pendant une journée, deux journées, des fois trois, puis qu'après ça, il revient à l'école, puis dans certains cas, il recommence, puis il recommence encore, puis il recommence encore. À un moment donné, je pense qu'il faut se poser la question. Je comprends que légalement, on a l'obligation de scolariser les élèves, mais à un moment donné, quand c'est toujours les mêmes qui intimident et qui font violence à leurs camarades de classe ou à leurs camarades d'école, il faut se poser la question. Il faut se poser la question si... on en fait suffisamment pour prévenir.
OK, mais ce genre que tu me dis là à mot couvert, c'est que tu souhaites des mesures beaucoup plus sévères.
Je souhaite que les directions d'école prennent leurs responsabilités et mettent en œuvre le plan de lutte à l'intimidation et à la violence. Chaque école a son plan de lutte. Et dans ce plan-là, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures d'intervention et il y a des mesures de sanction. Et je souhaite que les sanctions soient appliquées et qu'elles le soient de manière rigoureuse.
Ce qui n'est pas toujours le cas actuellement.
Ben, la journée, l'espèce de journée là, qui va nous permettre de regarder, de faire le point un petit peu sur ce qui se passe en matière de violence et d'intimidation dans les écoles, va nous permettre de faire le point là-dessus. Mais chose certaine, je comprends les parents qui disent « Écoute, là, mon enfant s'en va à l'école, il veut apprendre et puis il se fait tabasser. » Puis il se fait écœurer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre les mesures pour arrêter ça? Je comprends les parents qui nous disent ça.
OK. En terminant, tu as parlé tantôt d'une directive qui s'en vient sur les salles de bain, là, sur les toilettes genrées, non genrées. C'est pour quand, ça?
C'est pour bientôt. C'est pour bientôt.
Bientôt, vous l'en dites.
Ben, je te dirai dans les prochaines semaines.
OK. Merci, Bernard.
Faut que je passe par le conseil.
Non, je sais.
Pour ça.
Merci, bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. C'était le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors évidemment, sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu, 5e mandat. Il sera au pouvoir jusqu'en 2030. Il a été élu une première fois en 1999. Mais il a pris la parole et c'est peut-être ça qui inquiète le plus Jean-François Lépine avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Donc il a tenu des propos là qui peuvent ouvrir la porte à plusieurs interprétations.
Ben je pense qu'il d'abord il faut noter que dans la journée d'hier, là, il y a eu une manifestation quand même très importante dans beaucoup de villes de Russie avec ce mouvement qui s'appelle le mouvement contre Poutine qui a été lancé par Alexei Navalny avant qu'il décède. Mais malgré tout ça, donc tu as parlé de cette victoire-là. Puis il a dit, et c'est ça qui est inquiétant, parce que non seulement c'est le score le plus important qu'il a eu à ces élections depuis 1999, comme tu le dis, mais il a dit que le résultat prouvait que le gouvernement faisait les choses comme il faut. Et ce qui inquiète les gens, c'est aussi qu'est-ce que va être ce nouveau mandat? Ça inquiète autant les Russes, même si beaucoup de Russes ont voté pour lui, que les Ukrainiens, évidemment, où il y a une guerre depuis plus de 2 ans maintenant. Mais ce qui a été important, c'est qu'il a vanté justement la réussite de cette fameuse opération militaire, ce qu'il qualifie toujours d'opération spéciale en Ukraine. Et il a dit, si, parlant à l'Europe, si vous mettez des soldats sur le terrain en Ukraine, il a menacé le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Donc, c'est ça qui est un peu inquiétant. En fait, les Russes, eux, ont peur de quoi? Ils ont peur d'une éventuelle deuxième mobilisation importante, parce qu'il y a des rumeurs en Russie et un peu partout, d'une vaste opération militaire qui recommencerait au début de l'été.
Donc, pour renouveler les forces sur le terrain durant l'été, probablement.
Ça, exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir des troupes nouvelles, des troupes fraîches et une mobilisation qui s'étendrait à un plus grand groupe encore. Il y a des gens qui avaient quitté la Russie au début de l'invasion pour éviter la première mobilisation et qui sont revenus et qui là songent à repartir encore. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est exactement ça qui fait peur aux gens. La Russie, je l'ai dit souvent, a réussi quand même à créer une économie de guerre qui fonctionne. La croissance économique permet de soutenir l'effort de guerre. On a recommencé de façon massive la production d'armements de toutes sortes en Russie, avec l'aide, on l'a dit aussi, en partie de la Chine et de la Corée du Nord, de l'Iran aussi. Alors, ce que les gens craignent, c'est bien sûr que ce nouveau mandat-là, soit un mandat où, au contraire, ça va donner de l'énergie à Poutine pour continuer sa guerre en Ukraine.
Parlons des États-Unis. C'est assez incroyable ce qui s'est passé en fin de semaine. Il y a une course à la Maison-Blanche. Biden-Trump, on le sait, là, c'est réglé. Et Trump était en Ohio samedi. Il a tenu toutes sortes de propos extrémistes, méprisants. C'est, on le sait, là, son habitude. Mais là, il a dit, si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang.
Ouais, c'est honnêtement, moi, je veux en parler aujourd'hui en particulier parce que je pense qu'à la longue, ça devient inquiétant tout ça. Ce qui m'étonne, c'est peut-être que d'autres politiciens américains, pas seulement ses adversaires, mais des gens du Parti républicain disent, est-ce qu'on peut changer de ton? Alors, le ton, tu l'as dit. Bon, on dit, si je suis pas élu la prochaine fois, il y aura un bain de sang. Il l'a dit comme ça. Mais surtout, ce serait probablement la dernière élection démocratique de notre pays. C'est quand même assez inouï, là, ça. Puis en plus, il se lance encore une fois, dans la fameuse théorie du complot. On a gagné les élections la dernière fois. On en a des montagnes de preuves, c'est ce qu'il dit tout le temps. Et là, il a déjà fait dans le passé, mais là, c'était vraiment extrêmement concret. Là. Il a vanté les gens qui ont été condamnés pour le saccage et pour l'attaque du Capitole en janvier 2021 en disant que ces gens-là étaient des otages du système et des patriotes incroyables. Ça va loin, là. Puis il a même promis de les aider et même de les décorer s'il était élu. Alors, jusqu'à quel point on peut aller dans des propos provoquants? Moi, c'est la question que je pose. Ensuite, il a parlé de la crise migratoire, qui est un de ses thèmes favoris. Là, ça a été un de ses thèmes aussi de la dernière campagne, en 2016. Il a dit que des pays, libèrent délibérément leurs prisonniers pour les envoyer à la frontière américaine. Donc ce seraient des criminels qui viennent à la frontière, alors que même à l'époque où il était au pouvoir, ses propres adjoints parlaient de familles vraiment ruinées par la pauvreté et tout ça, qui sont désespérées et qui se présentent à la frontière, des familles entières. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Ben, lui, il parle des immigrants qui se présentent à la frontière comme étant des gens qui ressemblent plus à des animaux qu'à des êtres humains. Alors, encore une fois, les propos. Alors, moi, ma question que je pose, quand les médias traditionnels comme le New York Times, le Washington Post parlent de flot d'insultes et de vulgarité, comment ça se fait que ce discours est toléré par la classe politique américaine? On le sait, hein, Paul, dans des entrevues, même ce matin, on parle de la violence dans nos sociétés qui est de plus en plus, les gens qui ont recours à la violence pour toutes sortes de prétextes, qu'un personnage politique aussi important que ça ait recours à ces propos d'une telle provocation en disant ce sera un bain de sang. Moi, je comprends qu'il y a le premier amendement, il y a une liberté de parole aux États-Unis qu'on veut respecter, tout ça, mais je pense qu'il y a, au fond, une certaine limite c'est la question que je pose, est-ce qu'il y a une limite à l'incitation à la violence et à la sédition? Et ça inquiète aussi ces partisans qui disent ça va finir par nous nuire, tout ça. Hein? Mais ce qui inquiète aussi, puis ça, je vais ajouter ça rapidement, c'est aussi ces décisions qui changent constamment. Il est extrêmement impulsif. Puis une des décisions, c'est l'affaire TikTok, hein, cette motion de la Chambre des représentants qui demande que les investisseurs chinois se retirent de TikTok si TikTok veut continuer à fonctionner aux États-Unis, où il y a 150 millions de personnes qui utilisent l'application en question. Donald Trump avait adopté en 2020, pendant sa dernière année au pouvoir, un décret présidentiel allant dans le même sens, hein, forçant les Chinois de se retirer de TikTok, ou etc. À l'époque, son obsession, c'était de protéger les États-Unis contre l'influence de la Chine. Aujourd'hui, il est contre cette mesure-là, ce qui a surpris beaucoup de républicains d'ailleurs. Et pourquoi il serait contre? Les gens spéculent là-dessus. D'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que parmi les actionnaires de TikTok, donc ceux qui ne veulent pas que les choses changent, qui veulent que TikTok continue à fonctionner aux États-Unis, il y a un personnage qui s'appelle Jeff Yass. C'est un milliardaire, un investisseur, qui est un des meilleurs amis de Trump et un de ses meilleurs appuis au moment où M. Trump a besoin de centaines de millions de dollars pour payer non seulement ses dépenses d'avocat, mais tout ce qu'il doit payer dans ses nombreux procès. Donc, besoin d'argent, mais aussi, tout le monde dit, il voit le vent tourner, il voit les 150 millions de... Parce que TikTok a dit à ses abonnés, à ceux qui utilisent l'application, aussitôt après la décision à la Chambre des représentants, exprimez-vous, appelez-vous, écrivez à vos représentants à la Chambre. Et ça s'est fait, il paraît, avec une vague de contestation contre cette décision-là de la Chambre des représentants. Alors, j'imagine que l'ancien président voit le vent tourné, et il a décidé d'être opportuniste et de contredire ses anciennes politiques.
Gaza. Bon, il y a eu des tirs israéliens, des affrontements près de l'hôpital, évidemment, c'est un vaste complexe. Il y a cet enjeu, mais il y a aussi l'aide humanitaire. On a beau dire, on a beau faire, là, ça ne se rend pas directement aux Gazaouis qui ont faim et qui ont soif.
Oui, parce que encore une fois, les camions, qui sont la façon la plus rapide d'acheminer la nourriture, sont scrutés au peigne fin par les militaires israéliens. Ça rentre à coups de dizaines de camions, alors qu'il en faudrait plus de 300 par jour. On a vu en fin de semaine ce fameux bateau qui arrivait de Chypre et qui tirait une barge avec 200 tonnes de matériel. Ils ont fini par accoster. Ils ont fini par décharger la cargaison. Il y a toujours ces émeutes à chaque fois. Encore qu'on dit que là, ça s'organise un petit peu mieux dans la partie nord de Gaza, où les chefs traditionnels, ça c'est important aussi parce que c'était une hypothèse de solution pour l'avenir de Gaza que de réunir les chefs traditionnels anciens les anciens et leur dire, ben, vous allez constituer une forme de gouvernement. Ben, ça semble commencer à s'organiser, là, actuellement. Parce que, encore une fois, la police du Hamas, toutes les structures civiles du Hamas ne fonctionnent pas. Donc, comment contrôler les populations? C'est, semble-t-il, ce canal-là qui est utilisé. Mais c'est à vérifier, je le dis tout le temps, sous toute nuance, parce qu'on peut pas aller voir. C'est les gens qui sont sur place qui voient et qui rapportent, mais dans toutes sortes de circonstances. Ce qui est important, peut-être, à dire, en fin de semaine, c'est qu'Israël a confirmé, là, M. Netanyahou dit à ses alliés, là, quoi que vous fassiez, on va aller de l'avant avec notre offensive sur la ville de Rafah. C'est la dernière grande ville là, où il n'y a pas eu d'attaque massive d'Israël et surtout de destruction massive, mais où sont réfugiés, on le dit hein, depuis le début. Là, il y a à peu près 1,8 million de personnes qui vivent dans le sud de la bande de Gaza. Mais il y a eu des nuances en fin de semaine. Il va y avoir éventuellement une offensive, parce qu'il dit que c'est là que se réfugient les têtes dirigeantes du Hamas. D'ailleurs, l'hôpital de Al-Shifa qui a été attaqué, tu faisais référence à ça, c'est dans la ville de Gaza, c'est le plus grand hôpital de Gaza. Les Israéliens ont dit il y a des têtes dirigeantes qui sont revenues là puis qui ont trouvé refuge là. C'est pour ça qu'on a attaqué, une attaque ciblée, semble-t-il, qui n'a pas fait, en tout cas, autant de morts que toutes les autres attaques, malheureusement, mais en tout cas. Mais l'idée qui est importante, c'est qu'en fin de semaine, le chancelier allemand Olaf Scholz était en conférence de presse avec M. Netanyahou. Il a exprimé, il a dit aux Israéliens, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir les yeux sur les conséquences auprès des civils de ce que vous faites et ne pas rester indifférent. Les États-Unis demandent la même chose, disent si vous allez à Gaza, à Rafah, il faut un plan de l'offensive pour éviter que... Alors, M. Netanyahou semble avoir cédé là-dessus parce qu'il a dit l'offensive n'aura pas lieu dans le contexte actuel où plus d'1,5 million de déplacés campent dans cette partie du territoire. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'offensive serait précédée, elle se fera pas bientôt, semble-t-il, elle serait précédée, encore une fois, d'un appel à la population pour qu'elle quitte le sud de la bande de Gaza. Mais si elle quitte, encore une fois, si 1,5 million de gens quittent, où vont-ils? Dans le nord de Gaza, l'ONU le dit, 80% des habitations ont été complètement détruites. Où vont-ils aller? Alors, ça serait encore une fois quelque chose d'absolument terrible. Et en terminant, peut-être, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a à nouveau un espoir de cesser le feu. Parce que le Hamas, il faut le rappeler, jusqu'à récemment, disait on veut que Israël se retire complètement de la bande de Gaza s'il y a un nouveau cessez-le-feu, même temporaire. Et évidemment, pas évidemment, mais en tout cas, Israël refusait cette condition-là. Il semble que là, le Hamas est reculé. Est-ce que le Hamas lui-même a besoin de répit? J'imagine, peut-être. Mais donc, on recommence à parler. Les Israéliens ont envoyé une délégation, c'est toujours la même chose, à Doha, au Qatar. La semaine dernière, c'était en Égypte, pour essayer d'en arriver à une entente sur le cessez-le-feu. Puis en terminant, je veux dire une chose qui est importante, c'est les conséquences du conflit dans la région. L'Égypte a reçu 7 milliards d'aides de l'Europe en fin de semaine. Alors, ça a été annoncé en fin de semaine. Pourquoi? Parce que l'Égypte subit les conséquences directes de ça. L'économie égyptienne va très mal. Le canal de Suez, on l'a dit, fermé 50% seulement de sa capacité. C'est des revenus essentiels à l'Égypte, des devises étrangères. Bref, ça montre encore une fois l'impact de ce conflit-là dans la région.
Merci Jean-François.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Jean-François Lépine. Maintenant, on va revenir sur le dossier de l'ex-juge Jacques Delisle parce qu'on s'interroge depuis la semaine dernière sur le rôle joué par le ministre fédéral de la Justice de l'époque, David Lametti, qui avait ordonné un nouveau procès concernant le juge Delisle. Or, il y avait un rapport d'experts qui disait qu'il n'y avait aucune erreur judiciaire et on se demande pourquoi le ministre Lametti a donc pris la décision d'ordonner ce procès. J'en parle avec Maître Patrick Michel, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Maître Michel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci de me recevoir ce matin.
C'est gentil d'être là, mais vous vous posez un peu la même question que tout le monde. Là, j'ai lu les explications dans la chronique d'Yves Boisvert de M. Lametti qui dit en gros, j'ai lu le document, mais j'ai consulté d'autres personnes et je suis arrivé à cette conclusion, c'est pas un cas d'exception. Êtes-vous satisfait de ces réponses?
Ben, ces réponses soulèvent d'autres questions pour nous, je vous dirais. Parce que nous, que le ministre consulte, que le ministre cherche des avis auprès d'éminents juristes, on peut pas être contre ça. On comprend qu'il a une décision à prendre, une décision importante dans le processus. Nous, ce qu'on questionne, c'est le fait que ces avis-là, on n'en a pas connu l'existence avant l'article de M. Boisvert en fin de semaine. Je voudrais qu'on se serait attendu, vous le disiez, là, le rapport du groupe de révision des condamnations criminelles concluait qu'il n'y avait pas eu erreur judiciaire. Nous, on a géré le dossier en fonction de cette conclusion-là. On comprend que ces avis-là ont donc été déterminants pour la décision du ministre. On se serait attendu, d'une part, à pouvoir en prendre connaissance, à pouvoir peut-être y répliquer ou faire des représentations à l'égard de ces avis-là, et à tout le moins les avoir pour nous pouvoir en tenir compte dans les décisions qu'on aurait à prendre dans la suite des procédures.
Écoutez, moi j'ai regardé ça, là, puis je suis pas un juriste, mais il y a 12 jurés qui l'ont reconnu coupable, l'ex-juge de Lille, de meurtre. La Cour d'appel, 3 juges, ont maintenu la décision. La Cour suprême a dit la même chose. Il y a un groupe d'experts qui prétend qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire. Qu'est-ce que les consultants auraient pu trouver? Avez-vous la moindre idée de ce qu'ils ont vu que personne n'a vu?
Ben, on parle d'opinion, là. Évidemment, j'en ai pas pris connaissance des documents. Alors, c'est difficile pour moi de spéculer sur ce qu'ils auraient pu trouver. Mais, une chose est certaine, solliciter l'opinion d'un avocat ou d'un juge à la retraite, ça génère pas de la nouvelle preuve, ça. OK? Et pour ordonner un nouveau procès, pour prétendre qu'il y a eu erreur judiciaire, il faut qu'il y ait des nouveaux renseignements qui permettent de croire qu'une erreur judiciaire a probablement été commise. Alors, je pense pas que ces opinions-là puissent révéler de la nouvelle preuve. Ça révèle peut-être une analyse différente de celle qu'a fait le comité de révision des condamnations criminelles, mais certainement pas de nouveaux éléments de preuve. Et puis, on le dit encore, vous le savez, ce qu'a souligné le groupe de révision des condamnations criminelles, c'est que, Jacques Delisle et ses avocats ont produit de nouvelles expertises, mais ces nouvelles expertises-là, elles reposent sur des éléments de preuve qui avaient été divulgués, qui existaient au moment du premier procès. Alors, je vois pas qu'est-ce que ces opinions, ces nouvelles opinions ont pu révéler différents en termes de preuves.
OK. J'aimerais vous entendre avec plus de détails. Quand vous dites que les avocats ont présenté de nouvelles expertises à partir d'une preuve qui avait déjà été présentée, là, est-ce que vous me parlez du rapport du pathologiste, du rapport de l'expert en balistique?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, effectivement, ces rapports-là étaient accompagnés de croquis, de notes, d'autopsie, de radiographie, etc. Et c'est à partir de ces mêmes éléments-là que les nouveaux experts font une lecture différente au niveau de la trajectoire de la balle à l'intérieur du cerveau de Mme Rainville.
La question est la suivante, Mme Michel. Est-ce que la poursuite l'a échappé quelque part, ce qui a permis à la défense de soulever des questions pas à des experts, de voir des choses? On a parlé d'une partie du cerveau de la victime. Est-ce qu'on a perdu de la preuve? Est-ce qu'on a échappé des éléments de preuve qui font en sorte qu'on s'est retrouvé devant cette décision-là du ministre?
Encore une fois, c'est difficile pour moi de spéculer sur ce qui a influencé la décision du ministre parce qu'elle n'est pas motivée. Par contre, sur le dossier lui-même, devant les tribunaux, la Cour d'appel a conclu que le fait que ces éléments de preuve-là aient été détruits ou pas conservés là, par le laboratoire des sciences judiciaires, que ça n'empêchait pas M. Delisle d'avoir un procès équitable. Parce qu'il faut savoir que tous ces éléments de preuve-là, il concerne la trajectoire de la balle à l'intérieur du cerveau. Mais il y a un écueil majeur, et puis mes collègues en parlaient avec vous la semaine passée, hein. Il y a un écueil majeur, c'est que peu importe comment la balle est entrée puis quelle trajectoire elle a suivi dans le cerveau de la victime, il reste que pour se suicider, il fallait que Mme Rainville tienne l'arme de la main gauche. Vous savez qu'elle était paralysée du côté droit. C'était sa main, disons, sa main d'origine. Alors, C'était une gauchère adaptée, si on veut. Alors, il a fallu qu'elle tienne l'arme de la main gauche à l'envers et qu'elle active la gâchette avec le majeur en le poussant vers l'arrière. C'est difficile à décrire. Il faut voir la photo qui se trouve dans le jugement de la cour d'appel. Mais peu importe les conclusions des experts sur la trajectoire de la balle à l'intérieur du cerveau, il n'y a rien qui remettait en question le fait que pour que Mme Rainville ait pu se suicider, il aurait fallu qu'on explique comment elle a pris l'arme à l'envers de sa main gauche pour activer la gâchette avec son majeur. Et c'est ce que dit le groupe de révision des erreurs judiciaires. Et c'est ce que dit la cour d'appel aussi. La cour d'appel dit, malgré toutes ces nouvelles expertises-là, la théorie de la défense, la théorie du suicide fait face à un écueil important. C'est comment qu'on explique la façon complètement inhabituelle que Mme Rainville a dû utiliser pour tenir l'arme pour pouvoir se suicider.
J'ai posé la question à vos collègues qui ont plaidé le dossier. Mm-hmm. Là, pour la poursuite, il est clair que c'est pas un suicide, que c'est Jacques Delisle qui avait les raisons, les motifs et l'opportunité de tuer sa femme, et c'est lui qui l'a tué.
Ben en fait, nous, vous savez là, nous on n'a pas à être convaincus que c'est lui qui l'a tué. Nous, on a, c'est un peu technique là, c'est une nuance, mais pour nous c'est une nuance importante. Nous, on a besoin d'être convaincus, d'avoir une preuve suffisante pour pouvoir démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité devant le juge. Vous savez, on n'est pas juge, alors c'est pas nous qui jugeons de la culpabilité, mais cette conviction là que malgré l'ordonnance du ministre, on avait encore une preuve suffisante pour démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de Jacques Delisle à l'accusation de meurtre. Cette conviction-là, on l'a conservée là, malgré la décision du ministre.
Merci, Maître Michel. Bonne journée.
Bien, merci à vous.
Au revoir. Maître Patrick Michel est le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Maintenant, il y avait ce dossier dans la presse en fin de semaine concernant les intervenantes de la DPJ, puis un autre volet ce matin. Et on le sait, là, quand la DPJ débarque dans la vie des parents, c'est pas une partie de plaisir nécessairement. Et la crainte de se voir imposer des limites, un plan pour mieux travailler avec son enfant, il y en a qui le prennent pas. Le retrait d'un enfant du milieu familial, c'est dur. Mais ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des jeunes qui débarquent à la DPJ, ont un bagage universitaire. Mais rapidement, ils sont pris à partie par des parents qui sont en colère. Et dans ce qu'on voyait samedi, des descriptions de comportements violents, pratiquement de menaces, « je vais retrouver tes enfants ». Puis là, ce matin, on nous parle pratiquement de gens qui sont ciblés par des groupes sur les réseaux sociaux où on accuse la DPJ de pratiquement enlever les enfants puis de faire du trafic, puis etc., etc. Ce qui fait que ça pousse au burn-out beaucoup d'intervenants. Et après ça, on se demande pourquoi la DPJ est tellement, tellement marquée depuis les dernières années. Sébastien Pitre est avec nous. On lui a déjà parlé. Il est de l'APTS, donc il représente des intervenants de la DPJ. Et lui-même a été intervenant pendant plusieurs années, là, 16 ans en centre jeunesse en Gaspésie. Monsieur Pitre, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Cette violence-là, là, qui déferle sur les intervenants et les intervenantes, ça a toujours existé, mais il me semble que ça a atteint un niveau, là, qu'on n'a jamais vu.
Oui, ben, je vous dirais, dans les dernières années, avec les médias sociaux, les gens se rassemblent de plus en plus. Ils ont l'opportunité de discuter entre eux et avec le fameux groupe qu'on voit un peu, là, de parents qui ont un peu la DPJ, je vous dirais là-dedans, se retrouvent entre eux et échangent entre eux, se contaminent bien souvent aussi entre eux. Fait que je vous dirais l'arrivée des médias sociaux a facilité pour eux les échanges là.
Mais est-ce qu'on se retrouve pas avec de plus en plus des intervenants qui sont jeunes? Parce qu'il y en a qui quittent, il y en a qui font quelques années. Ils s'en vont pour toutes sortes de raisons, ils sont remplacés par d'autres qui arrivent de l'université. On a affaire à des jeunes là qui n'ont pas l'expérience puis qui rapidement se font bardasser.
Effectivement, je vous dirais, dans les dernières années, on a vécu l'exode des seniors, si on veut, les gens avec plus d'expérience. Depuis 2017, bon, avec le réaménagement, si on veut, on a eu des intervenantes qui ont pu aller appliquer sur d'autres postes dans d'autres endroits notamment, par exemple, au CLSC. Fait qu'on a perdu une expertise, si on veut, de gens plus anciens. Fait que nos plus jeunes qui arrivent de l'école, bien souvent, travailler avec la LPG, qui est une loi d'exception aussi, n'est pas nécessairement évident. Ça prend quand même quelques mois avant de la maîtriser, et même quelques années aussi. Fait que nos jeunes intervenants qui arrivent, qui apprennent sur le... Avec l'aide des collègues aussi, je vous dirais, aussi le fait qu'on a moins d'intervenants, il nous manque des intervenantes à plusieurs endroits là au Québec, ce qui fait en sorte que les équipes, il manque un peu de bras pour les aider.
OK. Deux choses. La première, là, on connaît l'objectif de réduire la liste d'attente des enfants. Est-ce que cet objectif-là fait pas en sorte qu'on coche des cases pour fermer des dossiers un peu trop vite? Si je suis un intervenant ou une intervenante, là, on met une pile, là, puis le message, c'est il faut réduire le temps d'attente.
Je vous dirais, depuis un an ou deux même, on voit que ça paraît bien pour le gouvernement de dire il y a une liste d'attente, on veut la diminuer, mais il n'y a pas nécessairement de choses mises en place avec, je vous dirais, l'aide des intervenantes. On ne considère pas les idées qu'ils ont. Puis ça, ben, ça fait en sorte, lorsqu'on traite beaucoup de signalements aussi, c'est pas des dossiers qui disparaissent. Il y en a plusieurs qui sont poursuivis à l'interne. Fait que ça fait en sorte que, notamment dans nos centres de réadaptation, on se retrouve avec plus de jeunes qui créent du débordement aussi. Fait que je vous dirais, le gouvernement, lorsqu'il s'est attaqué aux listes là, d'attente, n'a pas su envisager un peu qu'est-ce que ça pourrait venir pour la suite. Là.
Je donne un exemple qui est peut-être théorique, là, mais qui me vient de gens terrain là, qui me disent, il y a quelques années, puis c'est pas si loin que ça, là, un dossier qui avait un niveau de complexité, une intervenante pouvait travailler là-dessus pendant plusieurs heures. Là, on lui donne peu de temps parce qu'il y a trop de dossiers qui attendent, il y a trop de départs, il manque de monde, puis on augmente la pile.
Effectivement, je vous dirais, les intervenantes sont de plus en plus en surcharge de travail. Une intervenante, je vous fais un peu de moyenne, lorsqu'elle serait censée avoir une quinzaine environ de dossiers, puis là, c'est sûr que j'image un peu, ça dépend toujours de la complexité de chaque cas. Bien, lorsqu'une intervenante se retrouve à 20, 25 dossiers, bien, elle n'a plus le même temps de qualité à donner à l'enfant et à la famille aussi. Donc, l'intervenante, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle priorise les cas plus urgents. Elle éteint là, des feux à gauche, à droite. Elle essaie de faire du mieux qu'elle peut avec la surcharge de travail qu'elle a.
L'autre volet, cette violence qui s'exprime, là, soit dans des rencontres, là, c'est rendu qu'on enregistre et qu'on filme même les propos des intervenants et intervenantes, puis que ça peut ultimement servir en cours. Là. Quand il y a cette violence-là, est-ce qu'il y a des plaintes qui sont faites? Est-ce que si moi j'ai 23 ans et on me dit il y a tel père de famille qui m'attend avec un bâton de baseball, est-ce que la police est présente? Est-ce qu'il y a un soutien dans l'exécution des mandats?
Je vous dirais, c'est à géométrie variable beaucoup. Il y a des endroits, lorsque les intervenantes sachent qu'elles doivent aller dans une famille ou que ça peut être plus à risque, demandent du support, d'avoir une deuxième intervenante avec elle. Fait qu'il y a des fois que oui, c'est appliqué, elle peut avoir une deuxième intervenante avec elle, mais des fois, elle est prise d'aller seule. Est en manque de personnel aussi, donc c'est pas nécessairement évident. Je vous dirais, il y a des endroits même que je me fais répondre parce que les intervenantes appellent les corps policiers, ne prennent pas au sérieux l'appel ou se font dire ben c'est votre travail, donc pourquoi qu'on irait dans la famille. Puis il y a d'autres endroits qu'effectivement les policiers viennent aussitôt qu'il y a quoi que ce soit.
OK, merci, Monsieur Pitre. Bonne journée.
Merci beaucoup,
Mme. Au revoir. Sébastien Pitre est de l'APTS, le responsable national de la protection de la jeunesse. Je comprends que la DPJ, c'est pas parfait, là, puis il y a des intervenants qui font un power trip, là, puis qui regardent des parents en disant, hey, je veux juste te dire que je peux t'enlever ton enfant. C'est pas blanc ou c'est pas noir. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se dirigent vers la DPJ parce qu'ils veulent aider. Et ils craquent après un certain nombre d'années, même s'ils ont investi beaucoup de temps. Parce que le monde est de plus en plus fou. Qu'est-ce que je vous dis? Là, c'est plus, on n'est pas d'accord. C'est des menaces physiques. C'est de l'insulte, c'est de l'intimidation sur les réseaux sociaux.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.